RCF vous présente Boîte à livres. Michel Boxis.
Bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette boîte à livres intitulée « Le parfum des années ». C'est le titre du dernier livre d'Evelyne Bloch-Dano aux éditions Stock. Une collection, Ma nuit au musée, dirigée par Alina Gurdiel aux éditions Stock, compte déjà presque une trentaine de titres. Je vous en cite quelques-uns que vous connaissez peut-être. « Quand tu écouteras cette chanson » de Lola Lafont, qui a passé la nuit au musée Anne Frank à Amsterdam, « Rue du premier film » de Thierry Frémaux, à la Villa Lumière à Lyon, « La nuit s'ajoute à la nuit » d'Ananda Devi, également à Lyon, mais dans un endroit moins enchanteur, la prison de Montluc, Le buveur de brume de Guillaume Gallienne dans la Galerie nationale de Tbilissi, où se trouve le portrait de son arrière-grand-mère, princesse, dite Babou. Le parfum des années d'Evelyne Bloch-Dano aux éditions Stock fait partie de cette collection Ma nuit au musée. Evelyne Bloch-Dano a passé cette nuit à Cabourg dans la villa du temps retrouvé. Le lundi 10 mars 2025, il y a un peu plus d'un an, et son récit vient de paraître. Elle-même a accepté un entretien à distance sur cette expérience et sur son livre. Bonjour Evelyne.
Bonjour, bonjour Michel.
Alors vous avez participé au travail préparatoire de la création de la Villa du Temps Retrouvé, qui est un musée un peu spécial, je mets musée entre guillemets, consacré à la Belle Époque, dont le nom renvoie à Proust évidemment. Qu'est-ce que cette maison a d'unique à vos yeux ?
Alors, en effet, j'ai fait partie du comité scientifique et culturel. On est parti, en fait, d'un lieu qui n'était pas, qui ne datait pas de la Belle Époque, qui était plutôt un peu antérieur. Et de ce lieu, il a fallu extraire, si je puis dire, et remodeler, pour en faire une villa Belle Époque. Ça a été une première chose. La particularité, c'est qu'en effet, il n'y a pas de fonds muséal, mais chaque année, les expositions changent. Cette année, par exemple, qui est la sixième saison, les tableaux exposés sont à 90% différents de l'année précédente. Ce qu'il a d'unique aussi, c'est qu'il, à la fois, il renvoie un aspect un peu historique. Vous voyez, sur la Belle Époque, on essaye de plonger le visiteur dans cette ambiance Belle Époque. Et puis, il y a des œuvres d'art et également une introduction, si vous voulez, du numérique qui ajoute une autre couleur aux expositions et au musée. Donc, c'est vraiment un lieu à la fois intime, parce que c'est une villa, donc ça n'est pas le Louvre, vous voyez, à aucun point de vue, mais en même temps très ouverte sur l'extérieur et chaque année aussi sur une exposition consacrée à un personnage ou un sujet extrêmement populaire de l'époque. Alors, ça a été Gustave Eiffel, ça a été Pasteur, cette année, c'est l'Orient Express. Mais quand j'ai fait ma nuit, c'était encore Pasteur et je n'y suis pas allée durant la nuit.
Alors, comment vous êtes-vous préparé à passer cette nuit très spéciale? Qu'aviez-vous emporté avec vous pour passer le temps? Parce qu'une nuit, ça peut paraître long.
Oui, alors ma grande inquiétude, c'était de dormir en fait, parce que je suis plutôt quelqu'un du matin, et donc je me disais, mon Dieu, je vais être fatiguée, ça va être horrible, je vais m'endormir très tôt, ce qui n'a pas été le cas. Je me suis préparée, d'abord j'avais lu quelques-uns des livres de cette collection qui s'appelle Manu au musée chez Stock. Et donc j'avais une petite idée, mais souvent, évidemment, les autres écrivains l'avaient fait dans des conditions très différentes. J'ai emporté, qu'est-ce que j'ai emporté? J'ai emporté une couverture pour ne pas avoir froid durant cette nuit. J'ai emporté des vêtements confortables parce qu'on commençait par une séance photo, donc j'avais fait un petit effort vestimentaire, mais je voulais vraiment être tout à fait à l'aise. Et me déplacer avec des petites ballerines qui ne faisaient pas de bruit, alors que j'étais seule, mais enfin bon. Et puis également une torche qui était vraiment l'objet le plus précieux, puisque j'avais demandé l'obscurité totale dans le musée pendant la nuit. Je trouvais que cela apportait une ambiance, une coloration différente. Et puis j'ai apporté mon ordinateur avec des musiques enregistrées dont je ne me suis pas servie. Et je ne sais plus quoi, une bouteille thermos avec du thé. Voilà, des choses qui me paraissaient intéressantes à apporter pour être confortable, vous voyez, pour me sentir bien et ne pas être gênée par des questions matérielles.
Voilà, c'est tout à fait judicieux. J'en viens un peu en arrière. Une villa du temps retrouvé de la Belle Époque. Soyons clairs, la Belle Époque, c'est à peu près la Troisième République. C'est
Alors,
uniquement le début du.
les spécialistes historiens très pointus la font aller de 1900 à 1914. Tout le monde est d'accord sur la fin de la Belle
La
Époque,
guerre, oui.
1914, la guerre, évidemment. En général, oui, ça correspond à peu près. Peut la faire débuter vers 1880. Évidemment, ce qui élargit un peu le spectre et le nourrit davantage. Et on en voit en effet des prémices. Vous savez que cette expression « belle époque », elle est bien postérieure. À la période elle-même, jamais les gens de la Belle Époque se sont dit on vit la Belle Époque, mais c'est une expression qui a été trouvée par un homme de radio vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale, rétrospectivement, si vous voulez, en se disant qu'au fond, la période qui avait précédé la Première Guerre mondiale, on pouvait penser que c'était une belle époque. Voilà, donc et
Voilà.
l'expression a petit à petit été reprise.
Bon, mais alors, on peut la faire, une époque ne commence pas pile avec le nouveau
Non.
siècle, on peut la faire débuter un peu avant aussi,
Voilà.
j'imagine.
Moi, je dirais 1880. Je pense que c'est donc un peu après les débuts de la Troisième République, si vous
Voilà,
voulez, une
oui, parce
dizaine
que
d'années. Parce
une
qu'en
dizaine
fait,
d'années après.
dans les années 70, on est encore dans
Dans
la lignée
l'après-guerre, là, de
du Grand Empire,
70.
même si c'est fini, hein, même si le Grand Empire. Voilà.
Vous donnez bien l'impression de cette immersion dans une autre époque, dans un temps qui est aboli. Et vous insistez sur le fait, en citant d'ailleurs Adrien Goetz, que ce qui caractérise bien cette époque, et notamment l'activité de toutes les femmes artistes dont vous parlez dans votre livre et dont le portrait était sous vos yeux pendant cette nuit, que les salons de cette époque, de la belle époque, c'est tout un monde, mais un monde disparu, qu'on a un peu de mal à se représenter. Est-ce que vous pourriez restituer un peu pour nos auditeurs le souvenir de ces salons de la belle époque, peut-être avec des exemples?
Oui, l'activité des salons, et on aurait pu dire d'une certaine manière la même chose pour le XVIIIe siècle, pour les femmes qui ont donné des salons au XVIIIe siècle, peut-être même qu'on peut remonter, je dirais,
Précieuse
au
peut-être.
XVIIe, avec les précieuses. Mais elles vont, en effet, ces femmes qui sont souvent d'un milieu, évidemment, extrêmement favorisés, on va dire, ou
Fortuné.
de l'aristocratie, ou de la grande bourgeoisie, qui ne travaillent pas au sens enfin, du salariat ou du labeur que pouvaient supporter je sais pas, les classes paysannes ou même les ouvrières. Et ce sont souvent des femmes cultivées qui aiment l'art. Qui pratiquent elles-mêmes ces arts et qui sont à mi-chemin, je dirais, entre la mondanité et la protection des artistes. Mi-chemin, peut-être que le terme n'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est à la fois de la mondanité et une sorte de mécénat, vous voyez, des artistes. Alors, dans l'exposition, il y avait plusieurs portraits qui se reliaient plus ou moins à Marcel Proust, parce que nous n'avons pas encore prononcé son nom, je crois. Mais cette villa Belle Époque, elle se situe à Cabourg, et qui dit Cabourg dit maintenant Marcel Proust. Il y a vécu 7 ans, enfin vécu.
Ben,
Il est
c'est des
venu
vacances.
durant 7 années successives de 1907 à 1914 pour écrire. Et durant l'été, donc c'était uniquement les étés, il descendait au Grand Hôtel. Et ce musée, même si ce n'est pas du tout un musée Marcel Proust, il est tout de même conçu sous la protection ou sous la conduite de Marcel Proust. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les tableaux des dames qui étaient exposées, c'était des autoportraits. Et j'insisterai particulièrement sur deux de ces femmes. L'un était un autoportrait de Winaretta Singer-Polignac, et le deuxième de la comtesse Greffule, Élisabeth de Caraman-Chimay, de son nom de jeune fille. Alors, c'était très intéressant, je trouvais, de montrer comment ces femmes s'étaient représentées. Elles sont toutes les deux vraiment de grandes protectrices des arts. Dans leur salon, elles reçoivent tout ce qu'il y a de mieux en matière, je dirais, de célébrité et de, comment dirais-je, de noblesse, de gens qui sont qui font partie de ce milieu, de leur propre milieu, du reste. Elles reçoivent des artistes et en particulier des musiciens. Et elles ont toutes les deux, chacune à leur façon, initié, si vous voulez, les carrières d'un grand nombre de musiciens. Et, je pourrais ajouter une troisième personne qui est Madeleine Lemaire, à laquelle toute une salle était consacrée. La différence, c'est que Madeleine Lemaire est peintre et c'est presque, on pourrait dire, une peintre professionnelle. Et, mais elle avait également un salon très célèbre. Donc voilà, elles sont, toutes les trois sont quand même de très bons exemples de ces protectrices des arts, mécènes, et en même temps, grandes mondaines, chez qui il était de bon ton de se faire recevoir, mais où tout le monde ne pénétrait pas.
Oui, oui,
par exemple, le salon de Madame Greffule, on sait qu'il a, Elisabeth Greffule a été l'une des inspiratrices du personnage de Madame de Guermantes pour Marcel Proust. Seulement une des, il y en a plusieurs autres, mais tout de même c'est la plus célèbre. Et vous avez peut-être vu du reste des très beaux portraits photographiques d'Elisabeth Greffule.
Très élégante.
Qui était, voilà, très élégante, voilà, habillée par Wörth, enfin des grands couturiers. Et voilà, c'est vraiment quelque chose en effet que peut-être aujourd'hui on a du mal à se représenter parce qu'on sépare, si vous voulez, cette mondanité, cette sorte de jet set avant l'heure, on la sépare de l'art, des artistes.
Mmh, du goût pour l'art et du mécénat, etc. Et vous évoquez la figure de Madame de Saint-Marceau, qui a été remise au premier plan par Adeline Gouarnet au Pays de Bray. Là, elle avait fait une magnifique conférence et elle avait fait revivre cette époque. On avait parcouru, à partir de la villa de Madame de Saint-Marceau, l'itinéraire de ces promenades forcées qu'elle faisait faire aux artistes qu'elle hébergeait pendant donc, des sortes de vacances, par amour du sport. Et je dois dire que ça avait été assez sportif, effectivement, surtout qu'il faisait très mauvais temps, mais on a traversé de magnifiques paysages et il y avait des édifices dans la campagne qui sont tout à fait méconnus et qui étaient très intéressants.
Oui, oui. Et Madame de Saint-Marceau, elle a prêté certains de ses traits à Madame Verdurin, comme Madeleine Lemaire, hein, qui était une des figures qui ont beaucoup inspiré Proust pour Madame Verdurin, parce que Madame de Saint-Marceau était extrêmement autoritaire. Mmh. Et en effet, quand elle conviait, comme vous l'avez raconté, elle conviait des artistes, ils étaient vraiment tenus de s'exécuter,
voilà,
et de faire ces promenades, cette heure de sport. Enfin, je ne sais pas combien de temps exactement ça durait, mais ce qui était quand même assez inédit et précurseur du reste à l'époque. Parce que si on montait beaucoup à cheval et on jouait au tennis, la marche forcée n'était pas dans les programmes habituels de tous ces gens. Donc c'est amusant, oui. Elle a tenu un journal très, très, très épais et très détaillé de tout ce qu'elle a accompli.
Voilà, donc l'expérience, on va dire, immersive dans la villa du temps retrouvé. Pour vous, est-ce qu'elle a été celle du temps aboli, c'est-à-dire que vous êtes senti vraiment de plein pied avec cette époque, ou bien au contraire, est-ce qu'elle a, elle a creusé, elle a manifesté à vos yeux sa distance par rapport à notre époque ?
Quand j'ai passé ma nuit, pendant la nuit, véritablement le temps était aboli. Et j'étais dans une sorte de rêverie, mais en même temps concentration, concentration rêveuse ou une rêverie concentrée, autour de certaines de ces œuvres et certains de ces personnages. J'ai en particulier le souvenir de m'être assise sur un canapé face à un très beau tableau d'Anna de Noailles et avoir vraiment eu l'impression que je communiquais avec Anna de Noailles. Donc le temps, ce temps qui était sans limite, je pouvais après tout rester toute la nuit à regarder ces tableaux ou pas, ou faire des interruptions, y revenir. Je suis revenue plusieurs fois, j'ai refait plusieurs fois, sinon le tour, du moins le tour d'une partie de ces salles. Et donc c'était un temps aboli. J'étais pas dans une dimension, vous voyez, historique, en me disant, mais tout ça n'existe plus. J'étais plutôt dans l'idée que ces femmes, qu'il faut peut-être juste en citer quelques-unes, comme Rosa Bonheur, Sarah Bernhardt, j'ai parlé d'Anna de Noailles, on pourrait parler aussi de Louise Abéma, qui était une peintre de l'époque, de Louise Breslow, etc. Et toutes ces femmes, Alice Guy, la cinéaste,
Ah oui,
elles ont
cette image est
vraiment
très amusante.
initié quelque chose. Et ça, je l'ai d'autant mieux perçu après, au moment de l'écriture du livre.
Oui, bon, parce
Donc,
qu'il y a eu deux temps en fait. Hein. On n'a pas pu écrire forcément
voilà.
sur place. Vous avez
Oui.
vécu ce moment et puis
Bien
ensuite.
sûr. Et puis, il y avait des recherches quand même que je voulais
Bien sûr.
faire. Même si je connais assez bien l'époque, je ne connaissais pas toutes les peintres. Par exemple, Louise
Oui.
Abéma, je la connaissais de nom. Je l'avais aperçue ça et là, mais je ne connaissais pas les deux tableaux qui étaient très beaux,
Il y en
qui
a un
étaient
sur.
exposés. Trois.
Oui, il y en a un qui est
Comment?
reproduit sur la jaquette de votre livre. Il me semble que
Oui,
c'est un
c'est le
tableau de
portrait de
Louise
Sarah
Abéma.
Bernhardt.
Voilà, et c'est très frappant parce qu'il y a une fraîcheur incroyable. On sent vraiment la proximité, en quelque sorte, de cette actrice prodigieuse hein, et très libre pour l'époque. Oui, ça m'a vraiment frappé. C'est une bonne idée d'avoir choisi cette jaquette pour votre livre.
Oui, en plus c'était alors c'est amusant parce que dans le musée en fait c'était un tout petit tableau donc on l'apercevait vous voyez et on a l'impression là non il y avait deux grands tableaux de Louise Abéma que je décris et notamment un portrait de Renée de Pongeste qui était absolument magnifique
Une autre actrice, oui.
qui était la mère de Sacha
Sacha
Guitry.
Guitry, oui.
Et donc il y avait trois tableaux de Louise Abéma, et puis j'ai dit un mot de Louise Breslow qui pour moi était une révélation. Je n'avais jamais entendu même son nom, et maintenant je n'ai qu'une envie, c'est presque un appel, mais pour l'instant je n'ai pas beaucoup d'écho, pour qu'on fasse enfin une fois une exposition consacrée à Louise Breslow. Parce que c'est vraiment, selon moi, un grand peintre et une grande portraitiste de cette époque, une femme qui était suisse-allemande, mais qui a vécu en France, qui a vraiment été passée toute sa vie en France. Et je l'ai découverte véritablement, et il n'y a jamais eu d'exposition de Louise. Il y a eu des tableaux, ça et là. Je suis allée exprès au musée des Beaux-Arts de Nice cet hiver, parce que j'avais vu sur leur catalogue qu'il y avait un tableau de Louise Breslow. Malheureusement, il n'était pas exposé, donc je n'ai pas pu le voir. Mais voilà, donc c'est intéressant parce que c'est aussi une découverte dans ces cas-là.
Voilà.
Donc le temps, il est élastique, vous savez. Il est, voilà, on se replonge à la fois dans le passé, mais quand on se plonge dans ce passé, ça devient un présent.
Voilà,
C'est notre
l'éphémère et
présent.
l'éternel se rejoignent dans certaines expériences. Hein. C'est
Exactement,
ce dont vous.
exactement.
C'est le thème que vous développez dans certains passages de votre livre. Alors, Evelyne, je suis vraiment confuse parce que le temps passe très très vite avec vous et j'aurais eu encore plein d'autres questions à vous poser, mais voilà, il va falloir renvoyer les auditeurs à la lecture de votre livre pour profiter de toute cette documentation que vous infusez dans le récit de cette nuit, et de manière très, très vivante, avec plein d'anecdotes et de certaines drôles, mais certaines aussi assez dramatiques, et qui en font vraiment une lecture formidable. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour nous, et j'espère que vous réussirez ce projet de monter une exposition sur Louise Breslau, et peut-être d'écrire un livre assez original dont on sent quelque chose naître dans le chapitre 14 de votre livre, quand vous parlez du rire de Sarah. Et vous remontez jusqu'à la Bible. Et là, vraiment, c'est l'éphémère et l'éternel qui se rejoignent.
Ah, ça me fait très plaisir que vous disiez cela. Voilà, parce que c'est un chapitre, moi, qui m'a fait vraiment plaisir à écrire. Vraiment, ça m'a...
Oui, et vous faites vibrer le lecteur, c'est bien.
Oui, voilà. En tout cas, merci à vous, c'est toujours un plaisir.
Au cours de cet épisode de Boîte à livres, vous avez entendu la mélodie de Reynaldo Hahn, L'heure exquise, interprétée par Martin Hill, ténor, et Graham Johnson, piano. Une mélodie choisie par Evelyn Bloch-Dano pour introduire à l'ambiance des salons de la Belle Époque. Nous sommes heureux de l'entretien qu'elle a bien voulu nous accorder pour son dernier livre, Le Parfum des Années, aux éditions Stock, collection Ma Nuit au Musée. À bientôt. Lego ergo sum, je lis, donc je suis.